Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, on se fait la bise. Projet de loi 15 sur Santé Québec, les chiropracticiens souhaitent prendre part aux consultations. Un plaidoyer pour les impôts qui se font tout seuls. Et si on avait vraiment appris de nos erreurs, Boréal. Bonne écoute.
On se fait la bise, un texte de Stéphane Dompierre paru le 16 avril 2023 dans la presse. J'ai recommencé tranquillement, pas vite, à voir des amis. Des mois après tout le monde, oui, je ne voulais pas être le gars qui part la 18e vague de COVID. Tout semble pas mal revenu à la normale, mis à part que la pandémie a changé la façon qu'on avait de se saluer. Je me disais qu'après des années de distanciation, les gens seraient tellement en manque de contact humain que les salutations entre amis deviendraient peut-être plus ostentatoires pour compenser. Un gros French, les mains sur les fesses, en se frottant l'un sur l'autre, quelque chose dans le genre. Étant introverti, ça m'effrayait un peu. Mais non, finalement. La poignée de main, l'accolade et les becs sur les joues, remplacés momentanément par un peu n'importe quoi, comme l'absurde hi-fi dans le vide à 2 mètres de distance, ne sont pas redevenus des habitudes. Avant la pandémie, on suivait la cadence imposée par la plus extravertie des deux personnes. Deux becs sur les joues? OK. Ah, oh, un petit câlin avec ça? Ben, coudonc, allons-y. Ou juste une poignée de main, même si on se connaît depuis 10 ans? Ça me va. Ça durait 2 secondes, c'était réglé et on passait vite à autre chose. Maintenant, quand je rencontre un ami, les premiers instants ressemblent à un duel en pleine rue principale dans un vieux western. On s'observe, on se jauge, qui fera le premier geste et, surtout, quel sera-t-il? On tente d'évaluer la tolérance de l'autre, alors on s'observe un moment, sourire crispé, bras pendants, sans rien faire. Et on réfléchit. Est-ce qu'on se donnait des becs d'habitude? Me semble que c'est malpropre. On revient à ça où cette personne va avoir un mouvement de recul pour éviter qu'on se transmette des microbes? Vais-je l'offenser si je lui fais l'accolade? Ai-je vraiment envie d'une accolade? Est-ce un peu exagéré? Ça me semble un peu trop émotif à mon goût. Et misère! Ce moment est interminable. Cette personne va-t-elle faire un geste, qu'on en finisse? Ou devrais-je prendre les devants, au risque de commettre un faux pas? Va-t-elle trouver ça un peu froid si je lui donne simplement une poignée de main, comme si je rencontrais mon banquier ou qu'on était dans une entrevue d'embauche? Elle va penser que je ne suis pas content de la voir. Je suis peut-être mieux de ne rien faire. Ça ne me tente pas d'être la source d'un malaise. Si je suis trop collu, je vais avoir l'air d'un gars qui n'a pas encore compris comment se propagent les virus. Je vais attendre qu'elle fasse quelque chose. Mais elle ne fait rien. On ne peut pas se sourire indéfiniment dans l'entrée de l'appart sans rien dire. Le moment où l'on se retrouve et on brise la glace est parfois devenu aussi laborieux que de résoudre un cube Rubik sans les mains. Parce qu'on n'a pas remplacé ce qu'on faisait avant par autre chose. Me semble qu'il serait temps qu'on se trouve un geste clair. qui ferait l'unanimité. Le fist bump, ce petit coup de poing à poing, a un je ne sais quoi d'insatisfaisant. À mon sens, ça ressemble trop à une transaction de drogue rapide dans un coin de ruelle pour devenir la norme. Le coup de coude, inventé pendant la pandémie, oblige à des contorsions disgracieuses et j'ignore pourquoi les gens sortent souvent la langue en le faisant. Ce n'est pas chic-chic et ça propage probablement des germes. En attendant qu'on trouve quelque chose, je contourne le moment embarrassant en faisant diversion. Je vais prendre ton manteau. Hein, une bouteille de vin! « Wow, t'aurais pas dû !» Je contemple l'étiquette, je dis n'importe quoi à propos de ce vin que je ne connais pas. « Ah ben, un Merlot, toi !»« Puis un 2019, à part de ça !» Que je lance d'un ton ébahi, comme si j'avais la moindre idée si c'est une bonne année ou une année de merde, merlotement parlant. Il y a quelque chose d'excitant dans ce vide tout de même. On peut réinventer les salutations. Mais va falloir trouver, et vite, parce qu'on va se tanner des moments de malaise. Qu'est-ce que ce sera? J'ai pensé à une danse surprise. On se met à frétiller devant l'autre sur une chorégraphie de notre choix. Quelqu'un parle « Achy Breaky Dance », l'autre renchérit avec la dernière chorégraphie trouvée sur TikTok. Un se lance avec la gestuelle de la fureur. L'autre contre-attaque avec une stupéfiante danse flamenco accompagnée de castagnettes et de claquages de talons dramatiques. Une lambada, un Gangnam Style. Pif-pouf, les salutations sont faites. On essaie ça cette semaine. Et on regarde comment ça se passe. C'était « On se fait la bise », un texte de Stéphane Dompierre paru le 16 avril 2023 dans la presse. Projet de loi 15 sur Santé Québec, les chiropraticiens souhaitent prendre part aux consultations, un texte de Dr. Marie-Hélène Boivin, paru le 15 avril 2023 dans la presse. L'autrice est chiropraticienne et présidente de l'Association des chiropraticiens du Québec. L'Association des chiropraticiens du Québec est directement interpellée par le dépôt du projet de loi numéro 15, loi visant à rendre le système de santé et le service sociaux plus efficaces, et nous souhaitons apporter notre contribution à ce débat fondamental pour l'avenir du réseau de la santé et des services sociaux en participant aux consultations et auditions publiques dans le cadre de la commission parlementaire à venir. Titulaire d'un doctorat universitaire de premier cycle, les chiropraticiens sont des professionnels de la santé compétents et efficaces et souhaitent être mieux intégrés dans la trajectoire des soins aux usagers. Il est important de rappeler que les problèmes neuromusculo-squelettiques concernent un grand nombre de consultations dans les services d'urgence. Or, grâce à leur expertise en santé neuromusculo-squelettique, les chiropraticiens peuvent contribuer au désengorgement du réseau de la santé et améliorer les services à la population. Effectivement, notre contribution serait utile pour améliorer les trajectoires de soins des patients souffrant de troubles neuromusculo-squelettiques en favorisant un accès approprié et rapide aux services de santé adéquats. les chiropraticiens peuvent, de façon efficace, participer au triage, à l'évaluation et au traitement des patients pour un meilleur suivi de conditions neuromusculo-squelettiques qui affectent les Québécois. Il pourrait en résulter des consultations plus rapides et une diminution de recommandations inutiles à des spécialistes. Nous nous inspirons, entre autres, des projets pilotes de cliniques musculo-squelettiques, MSK, ayant cours en Ontario. Ces cliniques d'accès rapide aident les personnes qui souffrent de troubles neuromusculo-squelettiques à accéder rapidement à des soins chiropratiques. Par exemple, il peut s'agir d'un accès direct à des soins chiropratiques pour des victimes d'accidents du travail. Il est important de comprendre que plus la prise en charge du patient tarde à se mettre en branle, plus ce dernier s'expose à ce que sa condition devienne chronique. Aussi, le délai de consultation augmente le risque de retarder le retour au travail et à la vie normale, sans oublier l'impact économique qu'impliquerait le statu quo. Nous sommes heureux de constater une ouverture potentielle de l'État à une meilleure reconnaissance de l'apport des soins chiropratiques dans le réseau. Nous soulignons toute l'importance de la décentralisation prévue des responsabilités de santé et de services sociaux, qui assurément permettra une autonomie accrue aux différents professionnels. Nous accueillons positivement l'interdisciplinarité et le décloisonnement des professions en santé, deux concepts chers au ministre de la Santé, M. Christian Dubé. En effet, les solutions que nous proposons sont en parfaite adéquation avec les objectifs du plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé, dont on souligne dernièrement le premier anniversaire. Pour toutes ces raisons, les chiropraticiens sollicitent une place sur la liste d'invités du ministre Dubé en commission parlementaire. Les chiropraticiens désirent contribuer à soulager le réseau de la santé et des services sociaux dans un esprit de collaboration interprofessionnelle et dans l'intérêt de tous les usagers. C'était Projet de loi 15 sur Santé Québec. Les chiropraticiens souhaitent prendre part aux consultations, un texte de Dr. Marie-Hélène Boivin, paru le 15 avril 2023 dans la presse.
Un plaidoyer pour des impôts qui se font tout seuls. Un texte de Stéphanie Gramont, paru le 15 avril 2023 dans la presse. Imaginez si votre déclaration de revenus arrivait par la poste, déjà toute remplie par le fixe. Vous pourriez y apporter des ajustements au besoin, mais sinon tout sera fait automatiquement et gratuitement. Un rêve impossible, loin de là. Ça fonctionne exactement comme ça en Finlande. Pays pionnier en matière et dans une trentaine d'États où la saison des impôts roule pratiquement sur le pilote automatique. Au Canada, malheureusement, l'opération reste un chemin de croix. Cela fait en sorte que 12 % des Canadiens ne produisent pas leurs déclarations, se disant que leurs revenus ne sont pas assez élevés pour qu'ils aient des impôts à payer de toute façon. Grave erreur! En agissant ainsi, ils se privent d'une foule de prestations et d'une mesure d'aide fiscale évaluée à 1,7 milliard de dollars par année. Le plus triste, c'est que ce sont souvent des personnes moins nanties et plus vulnérables. Étudiants, personnes âgées, familles monoparentales, qui laissent filer l'aide précieuse à laquelle ils ont droit. Les sommes perdues peuvent être colossales. Par exemple, une mère gagnant 45 000 $ par année qui vit seule avec deux jeunes enfants perdrait près de 19 000 $ d'allocations pour enfants de la part de Québec et Ottawa en oubliant de produire sa déclaration de revenus. Ce n'est pas rien. Dans le discours du trône de 2020, le gouvernement Trudeau s'était engagé à mettre en place un système automatisé de déclaration de revenus pour s'assurer que tous les citoyens reçoivent leur dû. Jusqu'à maintenant, les avancées restent timides. Mais dans son budget de mars, Ottawa a annoncé l'essai d'un nouveau service de production automatique pour les plus vulnérables, système qui pourrait ensuite être élargi. Idem à Québec, il proposera dès l'année fiscale 2023 un service de déclaration pré-rempli aux particuliers ayant un profil fiscal simple. Ce projet pilote pourrait ensuite être étendu. Espérons-le, car faut-il rappeler qu'on est en 2023? On n'est plus à l'époque où les contribuables gardaient leurs reçus dans une boîte à chaussures. Dans bien des cas, les gouvernements disposent déjà de l'information nécessaire pour produire la déclaration de revenus des particuliers. La preuve, c'est que les logiciels d'impôt ont déjà une fonction permettant de télécharger automatiquement les renseignements fiscaux que possède le gouvernement. Revenus d'emploi, placements, etc. Il ne manque donc pas grand-chose pour véritablement automatiser la déclaration de revenus. À l'heure actuelle, environ le tiers des familles ont une situation fiscale assez simple pour que le fixe puisse remplir leur déclaration automatiquement avec les informations dont ils disposent, selon une évaluation de l'Institut CD Howe. Ce pourcentage pourrait grimper si le gouvernement demandait à différents organismes de lui transmettre directement l'information fiscale sur les dons de bienfaisance ou les droits de scolarité, par exemple. Non seulement ça simplifierait la vie des contribuables, mais ça éviterait aussi les oublis de leur part. Certains diront que notre système fiscal est trop complexe pour qu'on puisse automatiser la déclaration de tous les contribuables. À cela, on peut fournir deux réponses. Premièrement, rien n'empêcherait le fixe de fournir une déclaration pré-remplie aux contribuables qui pourraient ensuite ajouter eux-mêmes leurs mesures fiscales plus spécifiques auxquelles ils ont droit, comme les frais médicaux, les revenus de location ou de travail autonome. Deuxièmement, il est temps que les gouvernements fassent un grand ménage dans la longue liste de crédits et déductions qui ne fait que s'allonger au gré des promesses électorales. En 2015, la commission d'examen sur la fiscalité mandatée par Québec avait recensé une trentaine de mesures à éliminer, comme le congé fiscal pour les marins qui ne concerne qu'une poignée de contribuables mais qui alourdit la déclaration de millions de Québécois. 8 ans plus tard, on attend toujours un grand coup de balai. La complexité inutile de notre système fiscal a un coût énorme. Il y a déjà 10 ans, l'Institut Fraser évaluait que les Canadiens dépensaient jusqu'à 6 milliards de dollars chaque année pour produire leurs déclarations. La facture est certainement bien plus élevée aujourd'hui. Sans aide, les contribuables ont du mal à s'y retrouver. D'autant que la qualité du service fourni par les centres de contact de l'Agence du revenu du Canada est un important facteur de plainte depuis des années, selon le dernier rapport de l'Ombudsman des contribuables. Renseignements contradictoires ou incohérents, appels interrompus prématurément, et les choses ne risquent pas de s'améliorer avec la grève des fonctionnaires fédéraux qui menacent. Vrai, il existe des bénévoles dévoués pour aider les contribuables plus démunis à s'y retrouver, mais il n'est pas normal que le fardeau que notre système fiscal trop complexe retombe lourdement sur le milieu communautaire qui gratte lui-même les fonds du tiroir. Pourquoi ne pas suivre l'exemple de la Finlande, avec une déclaration pré-remplie? L'intention politique est là, la technologie le permet. Il faut appuyer sur l'accélérateur pour simplifier la vie des contribuables et s'assurer que chacun touche son dû. C'était un plaidoyer pour des impôts qui se font tout seuls, un texte de Stéphanie Gramont paru le 15 avril 2023 dans la presse. si on avait vraiment appris de nos erreurs, Boréal. Un texte de Alexandre Sirois, paru le 15 avril 2023 dans la presse. Ça va bientôt faire 25 ans que le documentaire « L'horreur boréale » de Richard Desjardins a secoué le Québec en nous montrant les ravages de la déforestation. Un récent dossier de notre journaliste Jean-Thomas Léveillé est venu nous rappeler à quel point la pression est en forte pour que nos forêts soient essentiellement considérées comme les cours à bois de l'industrie forestière. Il a révélé que l'Alliance Forêt Boréale, une organisation composée d'élus municipaux et principalement financée par Québec, entretient des liens étroits avec l'industrie du bois et émet des positions qui contredisent le consensus scientifique. Les positions de cette organisation chargée de défendre les communautés forestières sont loin de faire l'unanimité même au sein de ces communautés. C'est que son discours reprend celui de l'industrie forestière et fait abstraction des enjeux qui touchent aux autres fonctions de la forêt et par conséquent à sa protection. On fait l'impasse sur son importance pour la biodiversité au Québec. Par exemple, le dossier des caribous qu'on refuse de protéger en est une illustration flagrante et navrante. Cette nouvelle controverse démontre qu'il est plus que temps que le Québec se dote d'un nouveau chien de garde indépendant quant au sort de la forêt et tout particulièrement aux enjeux liés à sa gestion. Si on avait vraiment appris de nos erreurs quant à l'exploitation de nos forêts, on s'empresserait de créer un observatoire national de la forêt publique. L'idée de créer un observatoire national de la forêt publique a été lancée en 2021 par le Centre d'études de la forêt, qui regroupe 75 chercheurs répartis au sein de 11 universités québécoises. Elle n'a pas pris une ride. Avec un tel observatoire, on bénéficierait d'un regard indépendant et impartial sur la gestion de nos forêts, ce qui fait défaut actuellement. Le principal parrain de cette idée est le professeur Pierre Drapeau, co-titulaire de la chaire UCAT-UQAM en aménagement forestier durable. Un éventuel observatoire devrait, selon lui, remplir plusieurs fonctions essentielles. Servir de centre d'analyse et de diffusion des connaissances scientifiques sur nos forêts et leur gestion. Produire des synthèses publiques sur l'état de la forêt en lien avec les stratégies et les pratiques en matière de gestion durable au Québec, ainsi que des avis scientifiques sur l'aménagement durable du territoire forestier. Animer les débats et le dialogue quant au sort de notre forêt publique, entre autres dans l'espoir d'atténuer la polarisation. Ce serait un peu l'équivalent d'un vérificateur général pour la forêt. Produire des synthèses publiques sur l'état de la forêt en lien avec les stratégies et les pratiques en matière de gestion durable au Québec, ainsi que des avis scientifiques sur l'aménagement durable du territoire forestier. Animer les débats et le dialogue quant au sort de notre forêt publique, entre autres dans l'espoir d'atténuer la polarisation. D'ailleurs, il serait crucial que Québec choisisse de remettre entre les mains de l'Observatoire la tâche de produire le bilan de l'aménagement durable des forêts. Cet exercice permet d'identifier les objectifs en matière de gestion des forêts et d'évaluer s'ils sont atteints ou pas. Or, c'est actuellement au ministère des Ressources naturelles et des forêts de produire ce bilan. Ça signifie qu'il est juge et partie. Il est temps que ça cesse. La situation de nos forêts s'est améliorée depuis la diffusion de l'horreur boréale en 1999. C'est incontestable. Ce serait un peu l'équivalent d'un vérificateur général pour la forêt. D'ailleurs, il serait crucial que Québec choisisse de remettre entre les mains de l'Observatoire la tâche de produire le bilan de l'aménagement durable des forêts. Dans la foulée, il y a eu une commission d'études scientifiques et techniques sur la gestion des forêts publiques. Elle a entre autres mené à la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à la création d'un poste de forestier en chef. Celui-ci calcule la quantité de bois qu'on peut récolter dans nos forêts publiques chaque année. Cet exercice permet d'identifier les objectifs en matière de gestion des forêts et d'évaluer s'ils sont atteints ou pas. Or, c'est actuellement au ministère des Ressources naturelles et des forêts de produire ce bilan. Ça signifie qu'il est juge et partie. Il est temps que ça cesse. La situation de nos forêts s'est améliorée depuis la diffusion de l'aurore boréale en 1999. C'est incontestable. Dans la foulée, il y a eu une commission d'études scientifiques et techniques sur la gestion des forêts publiques. Elle a entre autres mené à la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à la création d'un poste de forestier en chef. Celui-ci calcule la quantité de bois qu'on peut récolter dans nos forêts publiques chaque année. Notons en revanche que le forestier en chef a un statut de sous-ministre. Certains estiment par conséquent qu'il est en situation de conflit d'intérêts et que parfois son jupon dépasse un peu trop. C'est l'une des multiples raisons pour lesquelles la confiance n'est pas à son meilleur à l'égard de Québec quant au sort de nos forêts publiques. D'ailleurs, lorsqu'on interroge les meilleurs experts de la forêt au Québec, il est évident qu'ils restent sur leur faim. Parce que le changement de culture souhaité à Québec ne s'est pas encore produit. C'est-à-dire que l'idée qu'on pourrait enfin cesser de voir la forêt uniquement comme une réserve de bois pour l'industrie ne s'est pas encore installée. Doter le Québec d'un observatoire national de la forêt publique serait assurément un pas très important dans cette direction. C'était « Si on avait vraiment appris de nos erreurs boréales », un texte de Alexandre Sirois, paru le 15 avril 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Aya Jennifer Addo à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.